la valeur client, le cas des entreprises du luxe en période de crise. Lorsqu'une entreprise du luxe se met à parler à ses clients de prix, c'est qu'elle a, enfin, compris son problème ou bien qu'elle est déjà en grande difficulté. Parler de prix à leurs clients, c'est ce qu'ont fait, il y a déjà quelques années, les constructeurs automobiles allemands de haut de gamme, comme BMW ou Mercedes, et c'est ce qu'avaient fait bien avant eux, les grands couturiers français, avec le prêt à porter. Mais, lorsqu'on parle de prix à des clients de produits haut de gamme, c'est qu'on estime que le prix est important pour eux, ou en d'autres termes, qu'ils sont devenus sensibles au prix, et donc, qu'on ne s'adresse plus à des clients premium pour lesquels, le prix a peu d'importance. Ce virage, bien négocié, annonçait la problématique stratégique actuelle qu'il est impossible de comprendre, sans faire référence aux stratégies qui ont dominé les 40 dernières années, car se réfugier derrière la crise, en priant pour qu'elle se résorbe rapidement et que tout revienne à l'état initial, est illusoire. Cette fameuse crise n'a été que l'accélérateur d'un changement antérieur, clairement annoncé par le consommateur, depuis le début des années 1990. Amis golfeurs, nous savons bien que ce n'est pas le vent qui donne cet effet détestable à notre balle mais qu'il augmente très fortement celui que nous lui avons donné. Nous continuerons pourtant à blâmer le vent pour tous nos coups ratés, tout comme ces dirigeants qui ont trouvé un moyen bien commode de justifier leurs erreurs stratégiques par le vent de la crise. 1. Constat, la plupart des entreprises ne s'intéressaient pas suffisamment à leurs clients pour voir naître le nouveau consommateur. Il aurait pourtant suffi à leurs dirigeants de se poser des questions simples pour comprendre les nouvelles conditions de leur performance. La première, mon client est-il plus informé et plus sensible à la qualité? Et la seconde, ce même client ne devient-il pas, en même temps, de plus en plus sensible au prix? Pratiquement sans exception, qu'il s'agisse de clients final ou intermédiaires, du bas de gamme ou du haut de gamme, ils auraient pu répondre positivement à ces deux questions et anticiper ce changement. Ils auraient pu aussi, dès le milieu des années 1980, constater le succès de créateurs d'entreprises partis de rien et atteignant le leadership mondial dans leur domaine en donnant une réponse adaptée aux nouveaux défis que leur posait ce consommateur, la qualité et le prix. Le créateur d'IKEA, au tout début des années 1950, avait ouvert le chemin à ceux des Decathlon, Dell, et plus près de nous, Zara. Sans ressources financières, 1000 euros pour Ingvar Kamprad, créateur d'IKEA, un magasin pour Michel Leclerc et Decathlon, et 20 000 $ pour Michel Dell, ni notoriété, et qui plus est, contre des concurrents puissants, et solidement ancrés dans une stratégie de premium, ils ont dominé en une vingtaine d'années leur marché, et laissé à leurs prestigieux concurrents la portion congrue. Ce nouveau consommateur, qui l'ont si bien compris et servi, se distinguait de l'ancien, ou, devrions-nous dire des anciens, en ce que, ceux-ci voulaient la qualité ou le prix, et qu'ils acceptaient de bon gré, au prétexte d'avoir l'un, de ne pas avoir l'autre. Soit ils payaient très cher la qualité, car le marketing et la communication leur avaient enseigné que la qualité, ça coûte cher évidemment, soit, lorsque le prix était faible, ils acceptaient que la qualité ne soit pas au rendez-vous, car, que voulez-vous, à ce prix, on ne peut pas en demander plus. Les entreprises profitaient, donc, de la coexistence de deux consommateurs, aussi différents que sympathiques, car ils n'en voulaient que pour leur argent, et permettaient le développement de deux logiques managériales simples à comprendre, et non concurrentes, le volume et le premium. 2. La satisfaction de la consommation par le prix. L'une de ces demandes, que les Japonais avaient été les premiers à cibler, au milieu des années 1970, était celle de la majorité des consommateurs occidentaux qui voulaient, simplement, pouvoir accéder aux produits. Disposant de moyens réduits et, peu à même d'évaluer la qualité de produits de haut de gamme qu'ils connaissaient mal et qu'ils n'avaient, de toute manière, pas les moyens d'acquérir, ils se contentaient de ce qu'on leur permettait d'acheter. Le baron Bic dans les stylos à billes, aussi bien que dans les briquets jetables ou la planche à voile, s'adressait à ce consommateur, dont les parents sortaient tout juste de la guerre, et qui utilisait encore des crayons ou des allumettes. Sur ce marché où la demande, en très forte croissance, excédait l'offre, les entreprises n'avaient qu'à réduire le coût de leurs produits pour séduire ce consommateur, qui n'avait pas les moyens d'être exigeant, ni sur la sécurité, ni sur la pollution, ni même sur la qualité technique des produits, ou des services qui les accompagnaient. S'il voulait une ligne téléphonique, il attendait 2 ans pour recevoir enfin un téléphone, dont il avait choisi la magnifique couleur noire, et en plus, il disait merci. merci aux entreprises de lui permettre d'accéder à un produit auquel il avait tant rêvé et ne pensait pas avoir droit. Me trouvant en Asie à la fin des années 1970 et particulièrement intéressé par les outils analytiques de la stratégie, j'ai eu la surprise d'entendre le responsable de la stratégie d'un grand groupe japonais me répondre « Oui, nous faisons des études de marché », puis après un long silence d'ajouter « Mais nous n'attachons pas trop d'importance à leurs résultats car c'est notre prix qui va créer la demande par le prix, et augmenter ainsi la production, pour répondre à la demande, et réduire ainsi ses coûts pour pouvoir encore réduire son prix, et toucher d'autres consommateurs, et cycle vertueux ou infernal ». La question ne se posait ni pour l'entreprise engagée dans l'engrenage de la croissance folle, ni pour le consommateur se régalant dans celui de la folle consommation. Il faut quand même reconnaître qu'en l'absence de cette logique, peu d'entre nous auraient aujourd'hui un ou plusieurs ordinateurs, un ou plusieurs téléviseurs ou n'importe quel appareil électronique, dont le coût est très sensible au volume de production, car c'est bien leur prix qui nous les a rendus accessibles. Et c'est notre consommation qui a permis en retour d'en réduire le coût. Mais, il faut aussi voir, dans ces stratégies, la première cause de la société de surconsommation, car, comment voulez-vous ne pas consommer leurs produits, quand les entreprises sont tellement gentilles avec vous? Qu'elles vous le donnent? Ainsi que l'illustre plus près de nous, le téléphone mobile. Combien d'entre nous en ont-ils vraiment besoin? Combien de ces conversations prioritaires, qui envahissent pourtant toute notre vie, ont-elles la moindre importance, et n'auraient pu être retardées? Combien de ces communications auraient-elles eu des conséquences graves, si elles n'avaient pas eu lieu? Et même si l'importance de ces conversations était avérée, combien d'entre nous, qui ont pourtant plusieurs appareils aujourd'hui, en auraient seulement un s'il était vendu, disons à seulement 1000 euros? Mais, combien d'entre nous peuvent refuser cet appareil si on le leur donne? Cette création d'une consommation facturée dans le futur, par un opérateur qui préfinance votre appareil et vous l'offre aujourd'hui pour vous permettre de consommer plus, est étonnant qu'une stratégie similaire avait été interdite en d'autres temps par le gouvernement américain à Kodak qui souhaitait donner à chaque citoyen américain un appareil de photo Instamatic, car à cette époque, 9 pellicules sur 10 vendues dans le monde étaient produites par Kodak. Précisons que cette interdiction avait été prononcée à la demande des concurrents de Kodak, dont les producteurs japonais, non pas les producteurs de pellicules, mais ceux des appareils photographiques, pour concurrence illégale et dumping. Kodak aurait dû s'entendre avec les producteurs japonais. Les concurrents ont appris la leçon, et, ils sont tous aujourd'hui les partenaires de cette magnifique entente, grâce à elle, les producteurs écoulent une quantité phénoménale d'appareils du fait du renouvellement permanent, organisé par leurs partenaires, distributeurs, qui ont eux-mêmes tout à gagner, car ils vendent ainsi beaucoup plus d'abonnements, beaucoup plus cher, puisque le client ne paye pas l'appareil, mais surtout, il l'entraîne dans des dépenses difficilement contrôlables, et se l'attache pour une longue période, à l'issue de laquelle, un nouveau téléphone gratuit viendra le fidéliser encore. 3. La satisfaction par la différence. Pourtant, alors qu'il aurait pu avoir un stylo Bic ou une montre Timex, certains consommateurs, beaucoup moins nombreux que les premiers, s'obstinait à payer 500 fois plus cher une Rolex, un Montblanc ou un Dupont. Le service de base, qu'il en retirait, était pourtant le même et certains iconoclastes allaient même jusqu'à prétendre, par exemple, qu'une Timex était plus fiable qu'une Rolex, quant à comparer la flamme d'un Bic à celle d'un Dupont. Pour d'autres produits, quand même, la différence était plus notable, et les consommateurs de Petrus ou de Margot le savaient bien, tout comme ceux de Mercedes ou autres BMW, mais l'écart de prix, avec les produits de base, restait quand même considérable, et certains prétendaient, qu'après tout, une voiture avec 4 roues, ou que seuls les œnologues pouvaient vraiment apprécier la complexité des grands vins. Ces consommateurs qui avaient les moyens de payer le prix du luxe, étaient évidemment beaucoup plus sensibles à la qualité qu'au prix, pas uniquement à la qualité technique du produit, à sa fonction de base, donner l'heure, allumer une cigarette ou aller d'un point à un autre, mais à la qualité perçue par eux. Elle comprenait la fonction de base, mais aussi tous les services associés, dont l'image et la reconnaissance. Une Rolex ne sert pas à donner l'heure, ce qu'elle fait aussi accessoirement, mais à signaler, comme tous les produits dont nous avons parlé, et comme l'a récemment rappelé avec humour M. Seguela, une réussite professionnelle associée à une certaine aisance financière. Les économistes ont démontré que la demande était une fonction inverse du prix, Il s'agissait pour l'entreprise, et dans une optique très malthusienne, de fixer son prix au niveau le plus élevé, lui permettant d'écouler la totalité de sa production, une production forcément limitée, puisqu'elle avait, elle-même limité, le nombre de consommateurs potentiels par le prix qu'il lui fallait payer. Outre la qualité perçue, la condition de la réussite était la rareté, qu'elle découle de la rareté naturelle du produit, comme pour les pierres précieuses, ou qu'elle soit organisée, voulue ou décrétée, comme pour les grands vins, limités en appellation et en territoire aussi bien qu'en production. Elle permettait de rentabiliser une demande faible, par un prix très élevé qui autorisait une marge unitaire excessive, en même temps qu'il signalait la qualité du produit, et de son acquéreur, car, si c'est cher c'est bon, mais même si ce n'est pas forcément bon, je suis forcément riche. 4. Quand avez-vous rencontré un client pour la dernière fois? L'un des meilleurs exemples actuels est celui de cette grande chaîne de distribution dominante, qui ne semble exister que pour satisfaire le client, au nom duquel elle ruine ses fournisseurs. A-t-elle jamais demandé à son client s'il n'accepterait pas de payer quelques centimes plus cher ses fruits, ses légumes ou son lait, pour permettre à l'agriculteur local, et plus largement à l'agriculture française de survivre sans subvention? Est-ce pour satisfaire le client qu'elle vend plus de 5 fois plus cher un produit, qu'elle ne payera au producteur que plusieurs mois après l'avoir vendu, utilisant leur argent pour réaliser des profits financiers? Lorsqu'elle augmente ses prix, est-ce pour mieux rémunérer le producteur, ou pour augmenter sa marge? En résumé, le client n'est-il pas simplement le moyen commode de légitimer sa pression sur le fournisseur, et le reste de ses partenaires internes et externes? Quoi de plus approprié pour justifier le prix? Les délais de paiement, ou les conditions commerciales faites aux fournisseurs, ou encore les conditions de travail que ce client chérit, objet unique de ses préoccupations. De même, est-ce pour satisfaire le client, ou pour augmenter la rentabilité des entreprises de volume, que nous avons connu la vache folle, l'hologramme du poulet aux hormones, les produits transgéniques, mais aussi à la réduction des services de base, de la sécurité dans les transports aériens ou routiers, ou la surréduction du personnel en contact dans les services. La logique de premium, diamétralement opposée à la première, semble à l'abri de toute critique, mais en fait, elle revient au même. Il s'agit d'offrir au client le meilleur, et plus exactement la meilleure qualité définie par le producteur pour le client et qu'importe son coût, il payera. Qu'importe en effet que le conditionnement, les frais publicitaires, la distribution et les bonus des dirigeants coûtent 9 fois plus que le produit, puisque, par définition, compte tenu du niveau des marges unitaires, il suffira de peu de clients pour rentabiliser le produit. Lorsque les marges atteignent de tels niveaux, peut-on encore prétendre que c'est dans l'intérêt du client qu'on fixe un prix aussi élevé? Dans ces deux approches, l'intérêt du client n'est pris en compte que pour maximiser celui de l'entreprise. Ceci suppose un client peu informé, stupide ou sans alternative, ce qui est de moins en moins vrai aujourd'hui. Au grand étonnement des entreprises, le client est exigeant, car il est de plus en plus intelligent et informé, qu'il s'agisse d'un client fortuné ou non, il a compris qu'il existait une alternative, celle longtemps réfutée par les stratèges dont le plus célèbre Michael Porter affirmait pourtant que les entreprises devaient choisir entre le prix et la qualité, faute d'être coincées dans la voie médiane. C'est pourtant précisément cette voie médiane qui offre à la fois le prix et la qualité, qui est l'avenir de nos entreprises, si elles veulent satisfaire ces nouveaux consommateurs. 5. Un point commun, des excès commis au nom du client, mais en son absence. Bien qu'à l'opposé l'une de l'autre, ces deux logiques stratégiques, qui ont dirigé le monde dans les 40 dernières années, ont un point commun, l'absence du client dans les décisions de l'entreprise et les excès commis en son nom. Mais, comment, me direz-vous, le client est roi? Et c'est toujours pour le client que les entreprises réduisent leurs coûts ou augmentent leur qualité, c'est toujours pour son bénéfice qu'elles progressent. Soyons sérieux, la majeure partie des entreprises utilisent le client pour légitimer des décisions, visant simplement à accroître leurs profits, mais au fait. 6. Des stratégies adaptées à leur époque, mais les temps ont bien changé. Les deux stratégies, décrites précédemment, permettait aux entreprises de répondre aux besoins des deux populations qui dominaient les pays de l'Ouest, dans les années 1970, à l'époque où elles ont été développées, population d'ailleurs, toujours prédominante dans les pays en voie de développement, celle d'une classe supérieure servie par la qualité, et celle des plus défavorisés servie par le prix. elle négligeait totalement, en revanche, les besoins des clients appartenant à la classe émergente qui allait dominer, en croissance aussi bien qu'en nombre, les pays industrialisés ou très peuplés, de la classe moyenne. Plus éduquée que ses parents, plus informée des offres accessibles, plus habituée au choix, disposée à parcourir 10 000 km pour acheter un produit, par le web, plus capable, donc, de comparer et de choisir. Cette population exige un niveau de qualité élevé, et qui plus est, elle ajoute aux critères traditionnels de la qualité perçus par ses parents de nouveaux critères, comme la protection de l'environnement, le respect du commerce équitable, la protection de l'enfance, etc. Encore ignorée des leaders politiques, sous la pression du travail, du chômage, des taxes de toutes sortes, et pressurée par la fiscalisation, car elle est quand même la source des recettes les plus importantes, les riches étant peu nombreux, et les pauvres ne rapportant rien, de plus en plus incertaine sur son avenir, et se rapprochant du seuil dangereux du minimum vital, la classe moyenne devient de plus en plus sensible au prix, et elle le restera, même après la crise. Il ne s'agit plus, à la différence du passé, de deux populations distinctes, pouvant être traitées comme indépendantes, mais d'une seule et même population, exigeant la satisfaction simultanée de deux exigences jusqu'ici traitées comme antagonistes, le prix et la qualité perçue, ce que nous appelons la valeur perçue relative, valeur, car elle combine la qualité et le prix, perçu par les clients et non pas par l'entreprise, et relative, car elle ne s'établit pas dans l'absolu, mais par comparaison aux autres offres qui leur sont accessibles. 7. Que reste-t-il à nos entreprises ? L'espace libre pour nos entreprises se réduit comme peau de chagrin, mais faut-il encore qu'elles l'occupent ? Nous le savons déjà, les marchés de volume, basés sur une logique de prix, sont inéluctablement occupés par les pays à structures économiques, mais surtout sociales et sociétales qui leur donnent un avantage de coût déterminant sur les nôtres. Nous avons déjà pu en constater les effets sur l'emploi industriel et nous allons continuer à les constater pour l'industrie comme pour tous les services délocalisables, et bientôt les autres. N'espérez pas non plus que ses concurrents se cantonneront au volume et au bas de gamme. Vous pouvez déjà le constater dans l'automobile, l'électronique et bien d'autres secteurs, ils ont tiré les enseignements du passé, et ils visent le même client que vous, avec les mêmes stratégies, mais avec une autre entrée, ajouter de la qualité à leur prix, pour conquérir le marché des valeurs. Le client, je veux dire chacun de nous, en sera encore responsable, car sa grande sensibilité au prix ne lui permettra pas de bouder ses offres. La fuite vers le haut de gamme, comme l'ont fait les industriels d'Europe de l'Ouest face aux envahisseurs japonais, d'abord, puis asiatiques, est toujours possible mais limitée. Elle est limitée, d'abord, parce que ces segments sont déjà occupés par des entreprises à forte notoriété, dont l'agressivité va forcément croître, car leur réservoir de clients est stagnant, voire en déclin. Elle est aussi limitée par le temps, car la construction d'une position solide dans ces marchés, par croissance organique et concurrence frontale, est bien trop longue et coûteuse. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que la croissance des grands groupes du luxe se fait, par achat pur et simple de parts de marché, par acquisition de concurrents potentiellement rentables, mais ne pouvant plus amortir la croissance de leurs coûts fixes sur un volume de vente aussi faible. Mais surtout cette fois, vos clients ne vous suivront pas en premium. Il ne s'agit pas de mauvaise volonté de leur part, ils ne vous suivront pas dans le très haut de gamme, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, et que les offres concurrentes, évoquées ci-dessus, leur permettront de ne pas le faire. Ils apprécieront certainement la qualité que vous pourrez leur offrir, mais ils refuseront de la considérer comme un luxe. Nier ces évidences, ou les ignorer est suicidaire, alors, autant les considérer comme une opportunité de repositionner vos entreprises, pour les unes en augmentant la qualité de leur offre, sans vouloir en faire supporter le coût à leurs clients, et pour les autres en réduisant le coût de leur qualité sans la détruire. Nous nous intéresserons ici, plus particulièrement, au second volet de la problématique. En effet, les conditions du succès des stratégies de premium et de volume sont largement connues. 3. Et la conquête du marché de valeur par les producteurs de volume concerne peu d'entreprises françaises, alors que le positionnement en valeur d'entreprise, jusqu'ici positionné en premium, intéresse particulièrement les entreprises françaises, et en particulier, les entreprises de moyenne taille, pour lesquelles cette stratégie n'est pas un choix, mais la condition de leur survie, même quand la crise sera passée. 8. Réduire le prix de la qualité sans la détruire tout en augmentant sa rentabilité. L'équation est apparemment insoluble, car Réduire son prix en conservant une marge suffisante implique de réduire d'abord ses coûts, et ceci risque de se faire au détriment de la qualité, alors que réduire son prix sans réduire sa qualité produite semble ne pouvoir se faire qu'au détriment de la marge unitaire, comme en période de solde, par exemple. L'équation est en effet insoluble, si vous n'oubliez pas toutes ces idées reçues et toutes ces associations aussi acceptées que fausses. Repensez votre entreprise en prenant radicalement un autre point de vue, celui du client que vous voulez servir. Il vous demande simplement de lui proposer cette qualité à un prix inférieur, de ne pas simplement vous aligner sur vos concurrents pour lui offrir le même rapport qualité/prix que, mais de vous placer au-dessus du marché, au-dessus de la mêlée si vous le préférez. 9. Repositionnement d'une offre en valeur. La création de valeur pour le client par la réduction du coût sans réduction de la qualité est représentée sur le graphique ci-contre, ainsi que la valeur créée pour le client par ce nouveau positionnement. L'offre anciennement positionnée en premium était satisfaisante puisqu'elle se situait sur la ligne des offres concurrentes et qu'elle proposait au client le même rapport qualité-prix. Son repositionnement en valeur serait évidemment fortement créateur de valeur pour le client qui accéderait à la même qualité à un prix nettement inférieur et on peut penser qu'il sera très satisfait. Le problème pour l'entreprise reste de savoir comment elle peut, elle aussi, rentabiliser ce positionnement et elle peut le faire de deux manières, d'une part en réduisant ses coûts proportionnellement à la réduction de ses prix pour conserver le même pourcentage de marge unitaire, et d'autre part en augmentant le nombre d'unités vendues pour compenser une marge unitaire réduite par un plus grand nombre d'unités vendues. Ce dernier effet sur le nombre d'unités vendues sera quasi mécanique. Un positionnement en valeur, à condition qu'il soit communiqué et compris par le client, entraînera d'abord l'augmentation immédiate des ventes, et ensuite la fidélité accrue d'un client très satisfait, avec tous les effets bénéfiques en résultant. On se rapportera en annexe au point 2 et 3 pour plus de détails. Mais rappelons ici que, non seulement les ventes du produit lui-même augmenteront, mais que celles des autres produits de la gamme aussi, car l'une des conséquences les plus intéressantes d'une plus grande fidélisation des clients est que la confiance du client réduit sa sensibilité au prix et l'incite à consommer plus facilement les autres produits de l'entreprise. Il est moins sensible au prix, ce qui ne veut pas dire qu'il payera n'importe quel prix, mais que très satisfait de la combinaison qualité perçu prix, offerte par l'entreprise, il aura moins tendance à comparer le prix des produits de l'entreprise à celui de ses concurrents mais surtout que, même s'il constate un écart en leur faveur, il trouvera de bonnes raisons de ne pas changer de fournisseur. 4. Pour ce qui concerne la protection de votre marge unitaire par la réduction proportionnelle des coûts, elle demande des efforts et de l'imagination, mais surtout une rupture avec l'ancienne façon de penser et de faire, et nous allons tenter d'en décrire les grandes lignes, sans prétention à l'exhaustivité. Contexte de la décision managériale. Premium, toute décision managériale vise à améliorer la qualité produite, ou au moins sa perception par le consommateur. Communication et marketing sont les deux vecteurs indispensables de la réussite et le client supportera l'ensemble de ses coûts. Il n'a pas grand-chose à ajouter et lorsque le coût du flacon et de la publicité provocante l'emporte largement sur celui du parfum, nous savons que nous sommes dans le luxe bien français. Valeur, toute proposition, toute décision managériale et toute action doivent systématiquement avoir un résultat doublement positif. La plus grande, sa satisfaction du client en même temps que la plus forte rentabilité de l'entreprise. Si IKEA vous offre des meubles non montés, c'est bien sûr pour vous faire économiser environ 30% de leur prix, vous permettre de les transporter plus facilement et vous donner le plaisir de les monter vous-même, mais c'est aussi pour réduire et optimiser ses espaces de commercialisation en les stockant verticalement et avoir ainsi toujours des produits disponibles à la vente, à la différence de ses concurrents traditionnels. De même si elle vous offre des services de restauration à prix réduit et de prise en charge des enfants, c'est évidemment pour votre plus grande satisfaction, mais c'est aussi pour réduire ses coûts en implantant ses magasins en dehors des villes et vous permettre de rester plus longtemps et, au cours de votre promenade familiale, d'acheter plus. Si tous les managers d'IKEA, y compris leur préside, voyagent en classe économique et jamais en business ou en first, c'est parce que cela n'apporte rien à la qualité perçue par leurs clients. Et sans doute aussi parce qu'ils arrivent à peu près en même temps que les autres à destination. Enfin, si Dell n'a que 3 jours de stock de composants et vous offre toujours les meilleurs, c'est, bien sûr, pour vous offrir les derniers composants d'un produit à obsolescence rapide et vous vendre le système que vous voulez précisément, mais c'est aussi pour réduire ses frais financiers et diminuer ses coûts d'SAV en intervention gratuite sur site, l'écueil majeur des entreprises de vente par correspondance ou par le web, par des composants de meilleure qualité, et ce, faisant augmenter encore la satisfaction du client pour qui un bon SAV est important, mais pas des SAV du tout l'est encore plus. Fixation du prix. Premium, votre prix est fixé en fin de processus, aux dépens de votre client, ou comme la résultante des coûts que vous avez générés. Venant du premium, vous ne devez pas faire exception à la règle en matière de prix toujours fixé au niveau où vous ferez une bonne affaire. Si vos coûts de production et de commercialisation sont faibles, vous avez fixé ce prix au niveau maximum que vous pensez que le client peut supporter, sans référence réelle à vos coûts. Dans le cas contraire, vous avez multiplié le résultat de l'empilement de vos coûts par un multiple qui peut atteindre des niveaux extravagants pour vous garantir une marge très conséquente, justifiée dans votre esprit par le caractère unique de votre offre. Eh bien, commencez par oublier tout cela. Si vous souhaitez évoluer vers la valeur et ne conserver qu'une seule idée, votre offre doit rester unique aux yeux de vos clients par la valeur qu'elle crée pour lui. Valeur, votre prix est le point de départ de votre raisonnement. Il est fixé au niveau qui crée de la valeur pour le client, c'est-à-dire au niveau où il fait une bonne affaire. Reconnaissons que nous vous demandons là un changement de pensée radical, mais indispensable, et finalement logique, car votre client n'est ni responsable de vos coûts, ni chargé de subventionner votre entreprise. Le prix est exogène, il dépend de lui plus que de vous. Loin de dépendre de votre performance, il la conditionne et doit être votre première décision. Votre client est là pour faire une bonne affaire et c'est cela qui vous rendra unique à ses yeux. Lorsque vous allez chez Zara, Ikea ou Decathlon, vous savez que vous allez faire une bonne affaire, et c'est cette conviction qui fait de vous un client inconditionnel et fidèle, presque un ami de la marque. Difficile, me direz-vous. Pas tellement et techniquement facile même, à condition de disposer de quelques informations indispensables, annexe 1, pour pouvoir évaluer le prix normal de votre qualité perçue et en déduire celui qui créera de la valeur pour votre client. Compte tenu de la qualité relative perçue, position de l'offre sur chaque critère de la qualité perçue par ce groupe de clients pondéré par l'importance de critères pour ce groupe de clients, de l'offre représentée ci-contre, elle pourrait être positionnée en premium, à un prix qui ne vous donnerait aucun avantage, ni par rapport à des concurrents qui offrent un rapport qualité-prix similaire, ni aux yeux d'un client qui en aurait simplement pour son argent. Elle peut même être positionnée très à droite de cette position, à un prix très excessif, même si ceci s'appelle liquider sa position sur le marché, car si la rentabilité à court terme est votre seule préoccupation, si vous avez une avance dont vous savez qu'elle ne durera pas, du fait de la copie, par exemple, et que vous n'avez pas l'intention de rester sur ce marché, pourquoi pas? Si en revanche c'est une stratégie à long terme que vous mettez en œuvre, c'est à gauche de ce point, le plus à gauche possible que vous devez vous positionner. Combien plus à gauche? Le plus possible en combinant les deux conditions de cette décision. D'abord, créer un écart de prix significatif avec le marché, car le consommateur n'est pas sensible à de petites différences, il ne les perçoit pas ou elle ne modifie pas son comportement, qu'il s'agisse de qualité ou de prix. Votre prix doit idéalement être fixé au niveau qui fera basculer le consommateur vers votre offre, et sans en faire une règle, nous rappellerons que dans les luttes concurrentielles sur le prix, qui, dans le passé ont fait balancer le consommateur vers une offre nouvelle, l'écart de prix était de l'ordre de 30%. La seconde condition est votre capacité à réduire vos coûts de manière aussi significative, mais nous avons peu d'inquiétude à ce sujet, et nous allons y venir. En tout état de cause, si, pour une raison ou une autre, vous ne pensez pas pouvoir créer un écart significatif de prix, NY allez pas. Restez en premium, et ne vous engagez pas dans une stratégie de valeur frileusement, car alors oui, vous réduirez vos marges sans augmenter vos ventes, et sans construire un positionnement solide en valeur. Gestion des coûts. Premium, vos coûts ne sont pas décidés, ils sont le résultat de votre qualité, et plus précisément des différentes activités que vous remplissez pour produire la meilleure qualité possible. Ils sont absents de votre cahier des charges, et surtout de l'esprit de vos managers. Ceci n'est ni une exagération, ni une caricature. Par définition, dans une entreprise de premium, ce qui importe, c'est la qualité, dont les coûts ne sont qu'une conséquence abstraite. Nous avons même rencontré, dans une grande entreprise de produits de très haut de gamme, un manager qui avait inventé la totalité des produits de l'entreprise dans les 20 dernières années, et qui a répondu, fort embarrassé, et sans aucune mauvaise volonté ni intention maligne, à la question suivante, « Pouvez-nous parler de vos coûts ?»« Je ne comprends pas votre question. » Et pourquoi l'aurait-il comprise, lui dont l'activité consistait à produire la qualité parfaite pour un client totalement insensible au prix, et avec comme seul impératif le zéro défaut. Nous avons aussi rencontré, dans un environnement pourtant plus concurrentiel, chez l'un des plus fameux producteurs européens d'appareils photographiques de très haut de gamme, aujourd'hui il a défunt, des managers refusant collégialement et unanimement de downgrader leurs produits, ce qui était pourtant techniquement parfaitement réalisable et aurait permis un positionnement en valeur, et préféré la faillite au déshonneur. Ce problème aura d'autant plus d'importance pour vous que la réussite de votre entreprise en premium aura été grande, car toutes vos actions passées, de votre recrutement à votre gestion courante, auront eu pour objectif unique, et c'est tout à fait normal, la qualité. Valeur, le niveau de vos coûts et votre second objectif qui découle directement du premier, votre prix, duquel vous aurez soustrait la marge que vous devez réaliser. Le coût est intégré dans le cahier des charges au même titre que les composantes de la qualité. Comme la plus grande partie du coût d'un produit, on parle de 80 ou 90% est déterminé par sa conception, c'est à ce niveau qu'il faut introduire le coût de la qualité et en faire une obsession à tous les autres niveaux. Il s'agit d'un autre changement culturel qui, pour ne pas rester va-pieds, doit obligatoirement s'accompagner de la compréhension des variables déterminantes de la qualité perçue pour investir sur ce qui rapporte à l'entreprise et au client, cf. Plus haut exemple SAV/composant. Investir sur ce qui ne coûte rien à l'entreprise, un sourire. Désinvestir sur ce qui n'est pas perçu ou perçu comme moins important par le client, sans toutefois tomber dans l'excès. Cf. Annexe 4 à 6. Communication. Premium, la communication est simple, l'excellence, ou la meilleure qualité, et elle peut être symbolique ou générique. Le prix en est absent, et le consommateur sait que si c'est le meilleur, c'est aussi le plus cher, et il l'accepte. Valeur, la communication est complexe, ni la meilleure qualité, ni le prix le plus bas, mais la meilleure affaire pour vous, la meilleure combinaison qualité-prix disponible sur le marché, la meilleure solution pour vous. Cette complexité est réelle, et le message à transmettre n'est ni simple à formuler, ni facile à comprendre. Dans sa formulation, il implique une double communication sur la qualité et le prix, ce qui rend le message plus lourd. Dans sa compréhension, il suppose des consommateurs et des partenaires intelligents ne cherchant pas à maximiser leur satisfaction sur l'une ou l'autre des variables, mais à l'optimiser sur les deux variables, avoir une qualité pas tout à fait aussi bonne que la meilleure pour un prix un peu plus élevé que le moins cher. Fort heureusement, la crise a un rôle moteur à cet égard, et il suffit maintenant d'écouter le consommateur ou de lire n'importe quelle revue pour y trouver de plus en plus souvent accolé la qualité et le prix, et même de plus en plus la valeur. Il n'en reste pas moins que si vos clients ne comprennent pas ce que vous faites, qu'ils ne soient pas assez intelligents ou que votre communication soit mauvaise, ils ne vous suivront pas et l'érosion de vos prix ne sera pas compensée par le volume de vente. Philosophie et logique de gestion. Premium, la logique est claire, et sa transmission est aisée, ce qui permet la permanence du concept dans l'entreprise au travers ses managers, même si leur rotation est rapide. Valeur, la permanence d'un dirigeant convaincu et persévérant, à la tête de l'entreprise est indispensable. C'est d'ailleurs la conclusion qui nous semble la plus importante de notre étude publiée en 2003. 5. Le point commun des entreprises ayant mis en œuvre avec succès une stratégie de création de valeur est la permanence de leurs dirigeants, et en particulier de leur président. Ceci résulte du problème de communication et de compréhension déjà évoqué, car la communication est aussi difficile à l'externe qu'à l'interne. Cette combinaison de qualité et de prix est difficile à expliquer aux clients, mais il est peut-être encore plus difficile d'expliquer aux managers que maximiser la rentabilité aux dépens de ses clients au lieu de le faire en réduisant ses coûts n'est plus d'actualité, même si c'est plus facile, même si on a toujours fait comme ça, et même si c'est encore possible. Il faut arriver à expliquer à un directeur financier qu'un retour sur investissement de 36% dans un marché très concurrentiel avec une marge nette de 18% est peut-être un peu excessif et que, même en l'absence provisoire de concurrents sur ce produit nouveau, le prix devrait être réduit et les actifs devraient tourner plus vite, car ce prix très élevé a un double effet pervers, créer des clients potentiels insatisfaits de ne pouvoir accéder à l'offre, ce sont déjà les clients de vos concurrents, et attirer et faciliter l'entrée des concurrents sur le marché, et il vous répondra, dans une autre logique que la vôtre, on perd de l'argent sur presque tous nos produits, alors si on n'en gagne pas un maximum sur les autres car il n'a jamais vu et ne verra jamais un client. Un dirigeant convaincu et permanent est le seul garant de la mise en œuvre d'une stratégie de valeur, d'autant que celle-ci remet aussi en cause quantité d'avantages acquis. Un leader charismatique est suivi par tous, a fortiori s'il est le dirigeant unique, mais il n'arrive pas toujours à communiquer sa foi, car en cette matière aussi tout est question de foi, que ses successeurs n'auront peut-être pas. Il suffit alors que ceux-ci perdent de vue l'essence de la religion que la réduction de prix doit se faire sans réduction de qualité pour entraîner l'entreprise vers le volume, et se trouver très rapidement confrontés à des clients déçus, et des concurrents agressifs sur le prix, et cesse le risque actuel d'IKEA. À l'opposé, s'il oublie le second commandement que l'augmentation de qualité ne doit pas entraîner de hausse des coûts, ou tout au moins qu'ils ne devront pas la répercuter sur leur prix, ils vont tout aussi rapidement évoluer vers le premium, et se confronter à des concurrents à plus forte notoriété. Ainsi Michel Dell, après avoir quitté la direction de l'entreprise qu'il avait créée et conduite à la première place mondiale, a-t-il dû revenir aux commandes au bout de quelques mois pour réinsuffler la ligne directrice de son développement. La remise en cause des avantages acquis est une autre difficulté que nous connaissons bien en France, et mais aussi dans d'autres pays, et pour l'illustrer par seul un exemple, Jean Carlson a réussi à transformer en 2 ans sa Airlines, entreprise en banqueroute en 1981, en l'une des compagnies aériennes les plus appréciées des hommes d'affaires, par la mise en œuvre parfaite d'une stratégie de création de valeur pour les clients visés, les hommes d'affaires en déplacement professionnel, catégorie la plus rentable. Cependant, il n'a jamais réussi à convaincre ses employés au premier rang desquels les pilotes de la nécessité de sa stratégie, et malgré un incontestable succès, il n'a pas survécu aux turbulences sociales qu'a entraîné la remise en cause des statuts et des salaires qui avaient pourtant en partie provoqué la faillite. Conclusion, des écueils, bien sûr, mais aussi un océan d'opportunités. La logique de premium est tellement confortable, la plus confortable de toutes, pour tous les partenaires de l'entreprise, de ses dirigeants et employés, à ses fournisseurs, et même à ses consultants, tous bénéficient d'un positionnement dans le luxe. Elle définit le standard de l'industrie, ou plus souvent encore, elle devient le standard de l'industrie, à la fois détesté, jalousé et envié, Xerox, IBM, mais aussi Cartier, Saint-Laurent, Dior, Mouton Rothschild, Fauchon et tellement d'autres noms, souvent français d'ailleurs, sont connus de tous et partout. L'évolution vers la valeur de tout ou partie de l'activé peut paraître dangereux, car il entraîne un double positionnement, mais il est surtout très inconfortable, car il introduit les plus détestables des variables de management, le coût et le prix. Il est tellement inconfortable qu'il peut même sembler impossible à réaliser, et ce n'est ni une question de taille, ni une question de secteur, mais une question de culture qui nous a fait conclure dans un précédent ouvrage que plus une entreprise a réussi dans une stratégie de premium ou de volume, et moins elle est à même de développer ou de s'opposer à une stratégie de création de valeur pour le client. IBM, T-Big Blue, le symbole de l'entreprise américaine, après avoir assisté impuissante au succès fulgurant de Dell, a quand même finalement préféré se débarrasser de sa division ordinateur portable en la cédant au chinois Lenovo plutôt que d'entreprendre les changements qui lui auraient permis de concurrencer Dell, dont elle était et reste pourtant l'un des principaux fournisseurs de composants. La stratégie était connue, l'entreprise avait tous les moyens financiers et technologiques indispensables à sa mise en œuvre, mais les modifications structurelles à réaliser étaient telles qu'il ne s'agissait pas d'une évolution, mais d'une révolution, dont personne n'a voulu prendre le risque. Le seul vrai problème réel d'une évolution du premium vers la valeur est celui du changement de culture nécessaire car, pour ce qui concerne les dangers supposés d'un double positionnement premium-valeur, il n'est que le prétexte de l'inaction, Cartier avec le Must, Porsche avec sa Boxster, Mouton Rothschild avec ses vins de cépage, tous les grands couturiers avec le prêt à porter, et bien d'autres, sont les preuves éclatantes que ces stratégies peuvent coexister et la notoriété se maintenir. Non seulement leurs produits haut de gamme n'ont pas souffert de la comparaison, mais leurs produits de valeur a renvoyé l'ascenseur à ses prestigieux aînés, profitant largement de leur notoriété pour favoriser l'accession des uns au luxe à un prix raisonnable, il a été pour les autres le marchepied de leur parcours vers le luxe. La clé du succès reste la volonté réelle et durable d'orienter son entreprise vers les marchés d'aujourd'hui, non pas par des mots, des discours ou une communication qui, bien qu'elle mette le client à toutes les sauces, n'engendre pas pour autant une entreprise créant de la valeur pour lui, car la com ne sert à rien si elle ne s'accompagne pas d'une conviction servie par des informations et des méthodes. L'avantage des moyennes entreprises ou des entreprises en création est à cet égard évident, elles n'ont rien à perdre, un management stable et aucune alternative à cette stratégie.